Cube Radio.
Richard, je veux absolument que tu mettes le petit chapeau du Père Noël pour le devine qui vient souper de ce soir. Ça te va tellement bien. On fait un devine qui vient souper spécial, revue de l'année, mais temps des fêtes.
Ça va être plate, c'est rien passé cette année.
Ben, c'est vrai.
C'est rien passé. Vraiment, rien que des élections américaines, rien non. Qu'une pandémie mondiale, rien rien passé.
Rien que des actes de terrorisme, rien que, écoute, c'est quand même assez particulier. On peut se le dire, on a le droit d'ouvrir une bouteille de vin parce que 2020, ça a été une année de schnout, de caca, de merde, une année vraiment pourrie. Pour cette revue de fin d'année, on reçoit qui?
L'année passée, on avait eu Benoît Dutrisac et Mario Dumont.
Ouais.
Et c'est avec eux qu'on avait fait la revue de l'année. Et là, c'est Emmanuel Latraverse et Pierre Nantel.
Oui, ben deux collègues super appréciés de Cube, de TVA, de l'Empire, qui sont aussi chroniqueurs au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et ça va être intéressant parce qu'on va voir la parité. Un homme, une femme,
yeah.
ça va être parfait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Pierre Nantel, donc, a déjà été politicien. Donc, il connaît les deux côtés aussi de la médaille quand on parle de politique. Et c'est deux personnes extrêmement sensibles. Donc, je pense que ça va être belles discussions.
Emmanuel parle beaucoup, tu sais, elle est collaboratrice dans mon émission à Cube et elle parle beaucoup de la pauvreté. C'est rare, quoi. C'est un sujet dont on parle rarement, les chroniqueurs. Moi, j'en prends pas de vin.
Ah, excuse-moi. C'est bien la première fois que je sers du vin puis que je leur pose la bouteille après.
Attention, si tu me donnes pas de vin, m'envoie les chèques. Là.
Est-ce que t'aimes ça, petit...
Alors, donc, elle parle beaucoup de pauvreté. Elle va certainement revenir là-dessus en disant que ça l'a accentué les inégalités qui existaient dans la société québécoise.
Viens-tu dire ça l'a, toi?
Non.
Ça a. Ça l'a. Tu viens de dire... Oui, t'as dit ça l'a.
Ça l'a.
Tu peux pas être marié avec moi et dire ça l'a.
Ouais. Parce que j'avais pas de vin.
Ouais.
Ça m'a troublé là, que tu...
Ça l'a l'air, puis à cause que... puis non, ça marche pas là avec moi. C'est parce que la prochaine étape, c'est qu'on va se réveiller. Je vais me réveiller dans ton lit demain matin, puis tu vas me dire « Bon matin, ma chérie. »
Oui, puis si on irait...
Oui, puis ça, tu sais que c'est une cause de divorce. Fait que, écoute, ça a l'air que deux super bons invités ce soir. Je suis très contente de passer en revue cette année. Écoute, je pense que c'est peut-être un cliché, mais le meilleur et le pire. Hein? On a connu le meilleur et le pire, des moments de découragement. Écoute, quand on a commencé l'année, on se doutait pas que ce tsunami-là s'en venait vers nous.
Mais il faut le dire et le rappeler, nous sommes quand même des privilégiés, les quatre autour de la table.
Absolument.
Et les gens qui travaillent à l'émission, on travaille, on a un job, on n'a pas perdu notre job. T'imagines les gens qui ont perdu leur job, qui ont perdu leur investissement dans leur commerce, qui ont dû fermer. Ça, c'est avé.
Tout à fait.
Nous autres, on a dû porter le masque et on a dû rester un peu plus souvent chez nous. Correct, là. Emmanuel Latraverse, elle a une jeune fille et elle cherchait son lutin coquin dans ses boîtes.
Ouais.
Elle l'avait remisé l'année passée. Elle l'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé le lutin coquin. Et là, sa petite fille était vraiment furieuse. Et elle a dit, Emmanuel, elle a dit, il est en confinement.
Non.
Parce qu'il était en contact avec quelqu'un qui a la COVID. Le lutin coquin est en confinement. Il ne peut pas arriver tout de suite.
C'est donc génial.
Dans quelques jours, il va revenir. Fait que là, aujourd'hui, elle l'a appelé. La petite fille, elle l'a appelé sur son cellulaire, puis elle dit, puis, as-tu des nouvelles du lutin coquin, maman? Il est-tu correct, là?
Bon, on lui donnera la COVID, un de nos lutins. Voilà. On lui dira un de nos lutins. Ben oui! Ah,
oh,
ben que ça
oui,
va donc bien aller. Mais moi, sais-tu quoi? Ce que j'ai aimé de cette année, la seule chose que j'ai aimé de cette année, c'est que c'est l'année 2020.
Première fois que je l'entends, c'est la personne qui l'a dit.
Bon, trinquons et attendons nos invités. Toi, tu ris même plus de mes blagues, ça fait longtemps.
Bonjour, bonjour.
Buongiorno. Ça va bien? Tu parles d'un décor enchanteur, toi.
Okay, je pense qu'on est au-dessus chez Archambault.
Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Ben oui. Oh, vous nous avez fait un petit décor!
Un petit décor de Noël avec des lutins, des regards comme
sorti. Oh, t'as même sorti ton truc.
Oui.
Puis moi, je vous ai apporté ma croustade. Je vais la mettre au bout.
Est-ce qu'elle est légendaire, ta croustade?
Ça, c'est une question qui est quand même pas fine. Es-tu légendaire? Grosse pression sur Emmanuel.
On va s'asseoir pour que vous puissiez admirer notre beau décor de
faut,
Noël.
Il faut saluer Pierre qui, habituellement, le soir...
Ben oui, pas loin de mon dodo, là.
Il se couche tôt, là. T'es,
habituellement, tu te couches à quelle heure?
Bon, 9h15. Ah, quand même. On est dans les temps. On est dans les temps.
Tu devrais être en train de prendre ton lait chaud.
Oui, mon lait chaud, mon petit bain de pied.
Hey, les amis, ouais. Merci d'être là pour cette revue de l'année. On est super contents, surtout que vous travaillez tous les deux comme des fous.
Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé cette année, donc plate, ça va être un peu
vrai.
Plat.
On a cherché des sujets.
C'est ça, il ne s'est rien passé, c'était plat. On commence-tu par les héros et les zéros?
Ben oui, on vous a demandé les héros et les zéros de l'année. Et ben, on commence avec toi, Emmanuel, ton héros ou tes héros de l'année en 2020.
Moi, c'est mes héros. Ouais. Ce sont les travailleurs essentiels. Là, je ne parle pas des anges gardiens du réseau de la santé seulement. Je parle de tous les petits salariés qui font que la vie fonctionne.
Ouais.
On est dans une société où ces gens-là ne sont pas respectés.
Ils sont invisibles, en plus.
Ils sont invisibles, ils ne sont pas respectés. On ne sait pas qu'ils existent.
Là, tu parles de quoi? Les camionneurs?
Ouais, les camionneurs, les éboueurs, les commis.
Les gens qui font l'entretien, ne serait-ce que ça.
Le monde qui... Tous les petits salariés qui font en sorte que notre vie fonctionne. Les éboueurs, le monsieur qui nettoie les rues.
Parce qu'il y a quelqu'un ces temps-ci qui dit ça manque d'avocats et de notaires. Non, soudainement, on n'en a plus besoin.
C'est vrai.
Ces gens-là, des courtiers, tout ça. Là, c'est quand même pas eux autres dont on a besoin.
Et pendant un bout de temps, au mois de mars, on a eu peur qu'ils ne puissent plus travailler, ces gens-là.
Oui, on leur rendait hommage.
On s'est rendu compte comment, finalement, toute l'organisation de notre société repose sur des invisibles qui ne sont pas valorisés, qui sont pas respectés.
Les préposés aux bénéficiaires.
Mais oui, puis je me dis, et les préposés aux bénéficiaires sont comme devenus ce symbole de la revanche du travailleur essentiel, parce qu'on a beaucoup parlé d'eux, puis du travail vraiment difficile qu'ils font, mais je pense qu'ils représentent en vérité toute une catégorie d'employés, de travailleurs dans notre société, les concierges dans les écoles, tous ces gens-là, on a besoin d'eux, mais d'une manière dont on prend jamais la peine de passer.
On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'eux au moment où, justement, on les a comme découverts, mais tu sais, dans la vie normale, là, hors pandémie,
voit le concierge, effectivement, dans l'école? Tu sais, quand en tant que parent, le concierge, on le remarque à peine, il passe la mob dans le grand gymnase.
Mais oui.
Puis il y a
les éboueurs, tu sais.
Absolument.
Pierre, toi, ton héros, tu nous as dit que c'était François Legault. Ben, d'un ex-politicien à un autre politicien, parce que tu es capable de mesurer l'ampleur de sa job?
Parce que quand on regarde qui gagne les élections, peu importe le pays, on se dit, le peuple a choisi cette personne-là parce qu'il joue un rôle de président dans une télésérie, ou alors on l'a trouvé beau, il était fin, sa blonde avait l'air fine. Sur quels critères est-ce qu'on choisit nos élus? Puis je pense qu'on est bien tombé avec François Legault, de toute évidence. En tout cas, à mon sens, il était plus qu'à la hauteur de la situation. Puis à la hauteur aussi citoyenne. Je pense que la grande force de François Legault, ça a été de chercher à communiquer avec le plus grand nombre possible, à acquiescer des problèmes que les gens vivent. Évidemment, les syndicats sont peut-être pas du même avis, mais dans l'ensemble, je pense qu'il tient vraiment bien le gouvernail. Puis honnêtement, je suis heureux que ce soit François Legault qui dirige mon pays dans le contexte actuel. C'est ça.
T'as dit mon pays?
Ben, attendez que je...
Ah, j'adore ça!
Non, mais c'est parce qu'on l'entend toujours. Ouais, je pense que c'est Emmanuel qui faisait référence à ça l'autre jour dans une de tes analyses sur le fait que les Canadiens de toutes les provinces ont un rapport vraiment majeur avec Ottawa.
Leur gouvernement, c'est Ottawa.
Tandis qu'au Québec, profondément, c'est pas
sûr,
vrai.
C'est sûr, t'as tellement raison.
C'est le Québec.
On est au Québec.
Puis Legault a été tellement rassembleur. Et moi, je trouve que son ton depuis le début... Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles, puis il y a des moments où il aurait dû être plus transparent, puis il y a des moments où il aurait dû être plus ci, plus ça. Mais la façon dont il nous a parlé... Tu sais, on va tous se souvenir des premières conférences de presse de 1h de l'après-midi où il nous disait « ça va être difficile, on va passer au travers ensemble ». Puis il nous regardait dans le blanc des yeux
Écoute, moi, juste me rappeler ça, j'en ai des frissons. Ça,
puis encore,
moi, la façon dont tu nous as parlé.
Je me souviens aussi, lorsqu'il y avait tout le débat sur la loi 21, etc., et sa fameuse phrase, c'est comme ça qu'on vit au Québec.
Ouais. Tellement.
Sans acrimonie, ouais. Sans le poing sur la table, ouais. le côté un peu René Lévesque, un peu de René Lévesque chez
moi,
François Legault.
Ça, on est dans une ère où on critique beaucoup les politiciens populistes, là, parce que ouais. On pense à Viktor Orban en Hongrie, on pense au Bolsonaro au Brésil. Ouais. Mais M. Legault est un populiste. Mais il a comme redéfini ça. Moi, j'appelle ça le populisme bienveillant.
Oui, ben c'est très bien dit.
Il tourne les coins ronds dans ses analyses, dans sa façon de présenter les argumentaires, des enjeux complexes, comme les négociations avec la fonction publique, l'enjeu des CHSLD. Pas parce qu'il manquait de préposés que les gens sont morts, parce que les CHSLD n'étaient pas préparés.
Ouais, non,
mais c'est pas grave. T'sais, on vend une salade. Là,
ah,
le
ben
monde,
moi,
ils vont se rassembler, puis... Tu sais, moi, je parle au monde. Il est un peu bin sur le bras, puis... Non, mais c'est vrai.
Mais je vois
ça
pas.
Crée un lien de confiance avec l'électorat qui a l'impression que son premier ministre le comprend, l'écoute.
Donc, la petite Raphaël veut savoir si la fée des dents passe pareil malgré le confinement. Donc, je veux dire à Raphaël et à tous les enfants... que je me suis assuré que la fée des dents va maintenant être sur la liste des services essentiels. Donc, ça va se poursuivre. Puis, je veux rassurer aussi tous les parents, la fée des dents est immunisée contre le coronavirus. Donc, il n'y a pas de danger. La fée des dents va continuer à faire son travail, Raphaël. Donc, merci pour ta question.
Je pense qu'en bout de ligne, c'est une des raisons pour lesquelles l'électorat québécois en pardonne tant à M. Legault.
Parce que populiste, ça peut avoir un sens très péjoratif.
Mais
ça peut avoir un sens simplement de dire « t'aimes ton peuple ». Puis tu sais comment utiliser les mots du peuple pour parler au peuple.
Mais moi, Emmanuel, je pense que ce que tu viens de dire, Sophie, c'est que les populistes, ça peut avoir une consonance négative. Puis à mon sens, M. Legault, il est sincèrement populiste. C'est pas un choix stratégique.
Là, tu l'idéalises. Moi, je pense qu'il y a de la tactique politique derrière ça. Et je ne le lui enlève pas. C'est pour ça que je dis un populisme bienveillant. Mm. C'est comme, moi, là, je parle au vrai monde, là. Puis, tu sais, il faut que le monde dans les régions, ils me comprennent. Puis, je suis à leur niveau. Puis, tu sais, les nuances, là, constitutionnelles, puis tout ça, là.
Mais tu le connais, tu l'as déjà vu. Nous autres, on est allés à un moment donné dans un souper. Il était là.
Mémorable.
Un souper mémorable. Il était là avec sa femme. Il est comme ça
comme
dans
ça,
la vie. Là.
C'est ça, je pense.
Monsieur, madame, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit peu de René Lévesque dans lui. C'est-à-dire qu'un gars ordinaire, puis qui dit des affaires en haussant un peu les épaules, là, puis...
Moi, en tout cas, en conférence de presse, quand je le vois, je le trouve tellement naturel. Puis honnêtement, regarde... J'étais un homme majeur et vacciné. J'ai fait de la politique. Puis je suis pas gaga devant François Legault. Je suis juste comme content d'avoir quelqu'un qui gère ça comme je le gérerais, comme un bon père de famille.
Alors, on a entendu vos héros, puis nous, on va le donner les nôtres aussi plus tard, mais je veux entendre vos héros.
Pourquoi
d'abord. Pierre, toi,
non, on va dire nos héros tout de suite.
Ah oui, OK. Ben vas-y, dis-les donc, ton héros. Ça te brûle les lèvres, ton héros.
Bon, ben, c'est les gens qui ont travaillé sur le vaccin. Je sais pas qui ils sont,
bon,
là, mais les gens, parce que c'est unique dans l'histoire, c'est une première dans l'histoire de l'humanité qu'on a développé un vaccin aussi complexe en si peu de temps. Ce qui démontre, lorsque... les énergies sont vraiment focussées sur un but. Et je reviens là-dessus. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une guerre qui s'éternisait. Le gouvernement américain a pris tous les boys, tous les scientifiques, ils ont mis dans le désert. Puis on dit, faites une bombe tellement grosse que ça va mettre l'ennemi à genoux. On vous donne un chèque en blanc. Trouvez-la. Vous avez 3 mois ou je ne sais pas trop quoi, 4 mois. Mais Christy, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Quand tu mets tous les brains ensemble, tous les cerveaux ensemble, avec un seul objectif, et tu imagines, si on mettait, là, toi, le verre, si on faisait la même chose...
C'est la chronique que je suis en train d'écrire
ce dimanche.
Toi, le verre.
Ça me déprime.
Si on mettait tous les scientifiques, là, Fais-moi un moteur qui marche à pisse.
Ben oui.
Qui fonctionne à l'urine.
Mais c'est n'importe
ouais, quoi, là. Et il trouverait. Ah,
mais il faudrait qu'il y ait de l'argent à faire.
C'est ma chronique que je suis en train d'écrire pour dimanche. Ça me déprime, cette idée-là. Ça fait 9 mois que l'économie est à terre. OK? On a accepté, comme peuple, là, de mettre notre économie à terre pour sauver
des vies. C'est pas tout le monde qui a accepté.
Non, mais bon, la majorité.
Sauf à place Rosemère.
Pour sauver des vies, là, on accepte de mettre l'économie à terre. On accepte d'arrêter de sortir.
Ouais.
On accepte d'arrêter de voyager. On accepte que le gouvernement a un trou de 390 milliards de dollars. Mais là, quand il faut faire des trucs pour les changements climatiques, là, ah ben là, on n'est pas pour mettre l'économie à genoux, puis moins voyager, puis trop dépenser. Point.
Ben, voyons donc. Je suis tellement d'accord avec toi.
Les changements climatiques, ils vont tuer autant de monde que la COVID, là.
C'est clair. C'est clair. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, honnêtement, que c'était une urgence très visible. Il y avait des gens malades dans les hôpitaux, tout ça, puis on a vu ce qui se produisait dans d'autres pays. Alors, potentiellement, on a pu constater, comme tu l'as fait, qu'on est capable de s'arrêter, on est capable de tout remettre en question. Maintenant, une fois la pandémie derrière, est-ce qu'on se remet à voler à gauche, à droite dans des avions, puis à consommer comme des cochons? Mais peut-être qu'il y aura au moins, en tout cas, la cause de tout arrêter, la décroissance peut-être même, va commencer à intéresser certaines personnes.
Bien, les écolos, c'est sûr qu'à la fin de la pandémie, les écolos vont avoir ton discours, Emmanuel,
ils vont dire, regardez, pourquoi pas nous?
Vous l'avez fait, là, on est capable, là, on peut-tu faire la même chose, sauf qu'on ne voit pas l'urgence. L'être humain ordinaire voyait l'urgence avec la COVID, mais c'est encore très abstrait, les changements climatiques. T'as beau, Christy, multiplier les images d'iceberg qui fondent puis qui se détachent, puis de banquises et tout ça, ça rentre pas encore dans la tête.
Ah, puis tu t'imagines le nombre de gens de courte vue qui vont faire des manifs avec des gros pick-up qui crachent à boucan noir pour dire hey, on veut pas, on veut continuer, on s'en fout.
Mais non, mais ils vont en avoir encore bien plus. On est dans la rue en train de dire j'aime la Terre, j'aime la planète. Puis qu'est-ce qu'on fait? On se revire de bord puis on commande 3 repas pré-emballés et pré-coupés de chez Good Food. Parce que c'est donc génial de ne pas avoir à se casser le bicycle pour savoir ce qu'on va manger pour souper.
Ça, c'est nous.
Ça, c'est nous.
Toi aussi.
Toi aussi.
Hey, Pierre,
on essaie de récupérer les sacs de glace.
Oui, mais c'est...
Mais non, je le sais.
J'ai honte.
C'est un paradoxe. Non,
mais on met ça dans le recyclage après.
Oui, mais le recyclage de plastique, là, c'est un mythe. Là, il ne recycle pas le plastique.
Ouais. Et ce soir, on va manger de la nourriture qui vient dans une boîte. On va manger du petit poulet puis tout ça. Bon, moi, je vais arriver avec mon héros. Puis là, je l'ai dit tout à l'heure à Richard, c'était quoi mon héros? Puis Richard était pas d'accord avec moi, il comprenait pas en quoi c'était un héros.
C'est normal, c'est ton chum.
Ah, c'est normal. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Cool. Mais moi, mon héros, c'est Samuel Paty, parce que cette histoire-là est peut-être une des histoires les plus tristes, qui est mort décapité donc par un terroriste islamiste. Et Richard, il disait, ben c'est pas un héros.
Je dis, mais il est mort en héros. Son acte héroïque, c'est qu'il s'est fait tuer.
Non, son acte héroïque, c'est que sachant pertinemment à quel point ça pouvait être controversé, il a quand même choisi de présenter à ses élèves les caricatures de Charlie Hebdo. Et après ça, il a été confronté par des parents. Il a maintenu son point. Il a maintenu le fait que non, il fallait pour défendre la liberté d'expression. Donc, pour moi, c'est un héros au même titre que d'autres personnes qui sont mortes pour leurs idées. Lui, pour lui, c'était extrêmement important de sensibiliser ses étudiants. Écoute, il y a des professeurs d'histoire,
mais
géographie.
Mais tu exclus le manque de jugement, pareil. Et c'est comme si...
Oh! Manque de jugement.
Oh, là, on va se chicaner par
contre. Non, mais moi, je suis absolument d'accord. Je suis pas certaine que quand tu donnes un cours sur la liberté d'expression dans ce quartier-là de la France, dans ce secteur-là, à des élèves de 13 ans, c'est vraiment l'outil approprié. J'ai un doute sur si c'est l'outil approprié pour des élèves de cet âge-là, dans ce milieu-là,
Donc, ça veut qui est dire très qu'il faut radicalisé. Il faut qu'un enseignant donne un enseignement différent selon qu'il est en banlieue ou qu'il est dans un milieu...
Non, je pense qu'il faut qu'un enseignant trouve les moyens les plus appropriés pour susciter une réflexion chez ses étudiants. Et je suis pas... Ça aurait été dans une classe d'élèves de 17 ans, j'aurais moins d'enjeux qu'avec mes élèves.
Quand t'as 13 ans, t'es pas capable de regarder des caricatures de Charlie Hebdo. Donc, à ce moment-là, des enfants de 13 ans, on va pas leur enseigner la Shoah. Parce que des gens qui sont brûlés, dans des fours crématoires, c'est raide pour des enfants de 13 ans. Fait qu'on va les protéger, les petits-enfants, puis on leur parlera
mais
pas de
obligée,
ça.
Je suis pas certain que tu es obligé de les choquer culturellement. Il y avait un geste de provocation dans mon
esprit. Il y avait aucun geste de provocation.
Il y a rien de tout ça qui justifie ce qui lui est arrivé. Je suis 100% solidaire du discours du gouvernement français là-dessus.
De Macron, ouais.
Je pense qu'il faut pouvoir enseigner, dire les choses. Mais j'ai quand même un petit malaise sur le fait que cet enseignant-là, dans ce secteur-là, dans ce quartier-là, à ces étudiants-là, ait posé ce geste.
Parce que je suis née en France, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 12 ans. À 12 ans, je suis arrivée ici, donc je connais bien la France. En France, il y a un principe qui est vraiment essentiel, c'est que tu n'es pas un citoyen de Seine-Saint-Denis ou un citoyen de Lyon, tu es un enfant de la République.
Ouais.
Et l'école française, l'éducation nationale, c'est pour ça que ça s'appelle l'éducation nationale, part du principe que tu es un enfant de la République.
Mm-hmm.
Donc, il ne viendrait pas à l'esprit d'un enseignant français de dire « je vais enseigner une matière différente ou je vais l'enseigner différemment selon l'endroit où je me situe géographiquement. »
Oui, mais ils montrent dans toutes les classes les caricatures de Mahomet à des enfants de 13 ans sur la liberté d'expression.
C'est... Mais lui, il a choisi est-ce de que, le faire et il en a payé de sa vie. Et l'autre chose que je veux juste dire une affaire. Non, c'est moi qui parle.
Non, c'est moi.
Mais je veux juste finir avec une chose, c'est que Samuel Paty a été tué parce qu'il a montré les caricatures de Charlie Hebdo. Les gens qui sont morts le 13 novembre 2015 au Bataclan sont morts parce qu'ils sont allés voir un spectacle. Les gens qui étaient à la terrasse en mois de novembre 2015 sont morts parce qu'ils étaient à une terrasse. Les gens qui sont morts le 14 juillet à Nice sont morts parce qu'ils se promenaient sur la promenade des Anglais.
Et tous ces morts-là, c'est la même chose. Richard, je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas qu'il mérite ce qui lui est arrivé. Je suis pas dans cette logique-là. Je suis outrée de la réaction du premier ministre Trudeau à ça. Mais il serait pas mon héros juste parce que moi, j'ai quand même un malaise avec son jugement.
Ben, ça provoque les terroristes, sûr. En tout cas.
Ben voilà, mais tu respires, ça les provoque.
Je suis pas sûr que le héros serait Samuel Paty, mais le zéro serait le gars qui l'a tué, effectivement.
Oui, ben on est d'accord.
On est évidemment à l'unanimité.
Bon, ah, ben ça, absolument. Et un zéro adjacent à Justin Trudeau pour ses déclarations niaiseuses sur la liberté d'expression, quand même, là.
Non, mais j'étais
pas fort, là.
Moi, c'est rare que je tombe en bas de ma chaise, là. Non, mais ça fait longtemps que je fais ce métier-là.
J'en ai vu,
j'en ai entendu des
niaiseries. Et c'est la fois, tu dirais, qui est la pire.
Mais il y a des fois où vraiment, là, j'en ai le souffle coupé.
De Justin Trudeau?
Et celle-là, j'en ai eu le souffle.
Ouais.
C'était tellement gros, ce qu'il a dit, que, tu sais, c'est comme dans un dessin animé, tu fais « tchic-tchic, voyons ».
Tu fais allusion à son cri au feu dans un cinéma bondé.
Puis il doit y avoir des limites qui sont là où tu blesses les gens à l'eau.
Et c'est particulier parce que Steven Guilbeault a dit la même chose à tout le monde.
Steven Guilbeault a dit la même chose, ministre du patrimoine, donc l'équivalent du ministre de la Culture, qui dit lorsque vous vous exprimez, vous devez tenir compte des susceptibilités de tous et chacun.
Oui, mais M. Trudeau aussi.
De tous et chacun, on ne dira plus rien parce qu'on est dans une société d'hypersensible où tout le monde est offusqué à n'importe quoi.
Mais c'est encore pire, c'est que c'est la preuve que comme il a utilisé le même langage que le premier ministre,
et voilà.
Donc, c'est que c'est des lignes de presse.
Exactement.
Ils ont vraiment pensé. Et moi, tu sais, c'est un débat qui est super difficile, celui sur la liberté d'expression. Pour preuve, on peut être d'accord sur le fond de l'importance du débat, pas être d'accord sur des nuances comme Sophie et moi en ce moment. Mais il y a un principe inaliénable derrière ça. C'est que la liberté d'expression, elle compte seulement quand elle te dérange.
Bien sûr.
Ah oui, ça c'est bien dit.
Oui.
Et c'est malheureux, mais c'est ça le prix de la liberté.
Parce que sinon, c'est pas la liberté d'expression. Quelqu'un qui dit la même chose que toi ou quelqu'un qui dit quelque chose de consensuel,
on est dans la marmite du consensuel.
Sa liberté n'est pas remise en question.
Et que le premier ministre du Canada aille dire ça, c'est ahurissant.
Mais d'abord, c'est un déni des lois. Parce que les lois au Canada, la seule limite à la liberté d'expression au Canada,
l'invitation
à la haine ou diffamation. Mais sinon, donc, il allait même à contre-courant des lois de son propre pays.
Mais c'est comme s'il n'a pas réfléchi. Et moi, c'est ça.
Et pourtant, comme tu dis, ce sont des lignes de communication de toute évidence.
Mais moi, c'est
dans la boîte de messages libérales.
Que M. Legault dise une niaiserie, qui parle de 7 000 tests au lieu de 7 000 vaccins. Tu sais, les les politiciens ont énormément de pression sur les épaules. C'est comme, tu sais, ils sont bombardés. Il faut qu'ils sachent tout, surtout, tout le temps. Qu'ils fassent des gaffes, qu'ils s'enfargent. Ça arrive, tu sais. Mais c'est quand même un débat. Puis moi, je me lève pas le matin pour penser à la liberté d'expression, là. Tu sais, c'est pas, non, mais tu sais, sérieux, là. Mais quand j'entends le premier ministre dire ça, je suis capable, en dedans de 15-20 minutes d'y penser, là, de dire, voyons. Tu sais, moi, d'avoir, alors, tu dis, il n'y a pas réfléchi. Et non. C'est ça, moi,
important,
qui me trouble.
Pourtant, il y a très réfléchi. Non. C'est dans la boîte de com' du Parti libéral.
Et ce qui est surprenant, en plus, si on revient à Samuel Paty, c'est que lui, c'est un ancien prof et qu'il a pris combien? C'était 11 ou 12 jours avant de dénoncer le fait que Samuel Paty avait été décapité, alors que, ben pas faire de favoritisme ou quoi que ce soit, mais Erin O'Toole, dans les heures qui ont suivi, a dénoncé et a offert sa solidarité avec le peuple français.
C'est intéressant, ça, parce que la liberté d'expression et les périls de la rectitude politique autour du racisme systémique, et en tout cas, tous ces trucs-là, c'est un enjeu de la droite depuis très longtemps.
Absolument.
Mais c'est un enjeu dont la droite avait honte. Dans le sens que ça servait à mobiliser ta gang de crinqués puis à ramasser de l'argent pour ton parti.
On parle-tu des Le Pen, non?
Non, mais c'est un truc qui tient à cœur à la base militante. Fait que, oui, t'en parles, mais c'était un petit peu honteux, tu sais. Et moi, ce que je trouve que c'est un des phénomènes de cette année, c'est que cet automne, c'est que dans la foulée d'une série de débats très différents, le débat sur la liberté d'expression est devenu un débat légitime sur la place publique qu'on ne peut plus exclusivement étiqueter comme étant un débat de crinqués à droite. Et ça, c'est intéressant.
Vrai, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de crinqués maintenant du côté gauche, là.
C'est ça.
Ben oui, parce que de toute façon, je vais faire un parallèle un peu peut-être oiseux et boiteux, mais ce qui vient d'arriver avec l'Association des libraires qui retire la liste de François Legault parce qu'il y a 2-3 pecnos dans le monde littéraire qui ont dit « Ah, oh, moi, je suis pas capable de voir le nom de Mathieu Bock-Côté, ça me donne de l'urticaire, je fais des convulsions puis j'ai besoin d'un safe space. » Mais c'est un débat sur la liberté, la liberté d'expression, ça n'est que ça.
Parlant d'essais, prochain, Mathieu Bock-Côté, bon, j'ai choisi l'empire du politiquement correct. Pourquoi Mathieu Bock-Côté?
Mais qui aurait cru, en commençant l'année, que ça allait être au cœur de nos préoccupations?
Non, c'était JND qui avait écrit un essai, là.
Évidemment.
Ben,
moi, j'irais plus loin. Il aurait voulu qu'on l'interdise, hein?
Non seulement ça.
Je le dis en tout respect pour les essais de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est juste...
Mais si François Legault avait dit... Ben, parmi mes lectures de l'année, il y a un essai extrêmement important. C'est Martine Delvaux qui a écrit A Boys Club.
Je pense que ça aurait été son Joker passé tout droit. Il aurait pu. Il aurait pas été quand même.
Jamais personne n'aurait rien dit. Les gens auraient complètement oublié même la loi 21 puis le racisme systémique. Les gens lui auraient donné la bénédiction en disant mon Dieu, c'est donc intéressant ces recommandations. Puis tout le monde aurait applaudi l'Association des libraires.
Parce que personne l'a lu, Boys Club, puis la majorité des gens savent pas c'est quoi. Alors que Mathieu Bock-Côté, c'est le fun de le
honorer
comme symbole
de la
droite nationaliste.
Donc, tu penses que l'essentiel du blâme, c'est relativement à sa recommandation de Mathieu Bock-Côté dans sa prestation en général. Là.
C'est deux trucs. C'est lui. Ouais. Lui, on veut pas qu'il donne ses conseils de lecture parce que tu sais que Luc Ferrandez, au 98.5, dit il y a seulement les gens de gauche qui lisent des livres.
Il a dit,
il y a seulement des progressistes qui achètent des livres. Donc, pour plusieurs personnes de cette gang-là, les gens de droite sont des imbéciles. Tu sais, Stephen Harper vient d'écrire un essai qui était très intéressant sur le populisme, un très bon essai.
Oui.
Et pourtant, il y a un gars qui envoyait des livres régulièrement parce que pour lui, dans sa tête, Stephen Harper était un niaiseux. T'sais.
Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que pendant des années, on a cassé du sucre sur le dos de Stephen Harper à lui envoyer des livres et à se moquer et rire du fait qu'il ne commentait pas sur les livres qu'il lisait.
Mm-hmm.
Puis après ça, on va reprocher à François Legault de faire ce qu'on demandait à Stephen Harper de faire.
Oui, mais c'est parce qu'il suffit pas de lire et il suffit pas qu'un politicien dise qu'il aime lire. Et il suffit pas qu'un politicien dise qu'il aime les livres québécois, il faut qu'il aime les bons livres. Parce que au Québec, maintenant...
Il y en a des bons et des pas recommandables.
Il y a des gens bien et il y a des gens pas bien. Il y a des femmes que les féministes vont défendre, ben, c'est des femmes bien. Il y a des femmes que les féministes ne défendront pas parce que c'est des femmes pas bien. Et la même chose, il y a des livres qu'on a le droit de lire qui sont formidables, c'est extraordinaire qu'on vende ces livres-là. Mais il y a d'autres livres qu'il ne faut pas lire, qui sont mis à l'index et c'est absolument hallucinant.
En tout cas, pour terminer sur la liberté d'expression, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans notre maison, c'est extrêmement important la liberté d'expression. Quand Sophie dit non, je dis non.
On a passé en revue vos héros. Maintenant, on va passer en revue vos zéros. Pierre, ton zéro de l'année 2020. Ah. Je rappelle que ton héros, c'est François Legault.
Ben oui, mais c'est très clair que c'est Donald Trump. Je veux dire, honnêtement...
Oh mon Dieu, je n'ai même pas pensé.
Depuis le début de son élection, tout le monde s'arrache la tête.
Tu peux l'échanger avec lui, si tu veux.
Mais il est au maximum de son délire cette année. 2020, ça aurait été l'année... de tous les dangers avec Donald Trump, et même que ça se termine actuellement avec une certaine inquiétude relativement à peut-être qu'il a commandité ou pas les attaques du Mossad. Je veux dire, c'est absolument perturbant. Et ça a un impact général sur toute la planète. Évidemment, moi, je suis pas américain. Ce qui me préoccupe ici, c'est le fait que c'est politique internationale, sa collaboration, sa façon de voir. Moi, je suis resté client de ce... J'attends beaucoup des États-Unis.
Mm-hmm.
Je suis pas, j'essaie de dans un.
T'es pas un anti-américain primaire.
Ben c'est ça, même profondément, je te dirais que je suis nostalgique de ces États-Unis qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, puis qui ont amené, qui ont bien profité évidemment de leur colonisation, de leur liée à leur victoire. Mais il y avait quand même un idéal américain dans lequel j'ai grandi.
C'est bien dit, ça, ouais.
Oui, oui. Puis je suis nostalgique de ça. Et Donald Trump a tout détruit. Cette image au niveau politique. Et quand j'avais une conversation avec, je pense que c'était avec Luc La Liberté, on parlait de la nouvelle équipe de Joe Biden qui venait d'être annoncée. Puis je dis, ça fait du bien de voir ça, tu sais, c'est comme un all-star team. Puis il dit, oui, mais il dit un petit peu trop. Parce qu'on dirait qu'on n'a pas appris des leçons de Donald Trump qui nommait, des gérants de brasserie aux affaires internationales.
Ben oui.
Fait que ultimement, je pense mais que Donald Trump, c'était un passage atroce pour les États-Unis.
Au parti républicain,
ah ben oui,
c'est un grand parti. C'était quand même le parti d'Abraham Lincoln. Et moi, Reagan, je trouve que c'était quand même un bon président parce que c'est quand même lui qui a mis l'URSS à genoux, là. Quand même, mais c'est un grand parti. Et là, qu'ils se sont dit, ce gars-là est un coucou. On sait qu'il est un coucou. On va se boucher le nez et parce qu'il va nous mener à la Maison-Blanche. Donc, ils ont fait un pacte de fausse, un pacte avec le diable, avec lui. Et ils ont salopé leur parti et ils ont salopé leur pays et leurs institutions pour avoir le pouvoir pendant 4 ans. C'est dégueulasse.
Mais le problème demeure entier aux États-Unis. S'il y a autant d'Américains qui appuient Donald Trump, c'est parce qu'il y a un rejet massif des élites politiques dans leur ensemble. Et c'est vrai que le Parti républicain a répondu à ça d'une manière mièvre, sans courage, en donnant les clés du char à Donald Trump. Mais on demeure dans un contexte où le problème en 2020 demeure aussi entier qu'en 2016 et où malheureusement, moi, je ne vois pas dans le Parti démocrate un parti qui a compris, qui a entendu, qui a répondu à ça. Et je le vois encore moins dans les grands médias américains.
Puis toi, tu avais écrit une chronique, Richard, où tu disais le Trump va peut-être partir, mais le Trumpisme va rester.
Oui, mais moi, je rêve, toutes ces valeurs-là, je rêve d'un Trumpisme sans Trump. C'est-à-dire qu'un mouvement politique qui est un peu l'équivalent des Gilets jaunes, qui dit il y a des perdants de la mondialisation, le Rust Belt, on sait c'est qui, là, Joe Sixpack, qui a perdu sa job, l'entreprise, levé les feux, est allé en Inde ou en Chine, et tout ça. Alors, puis il voyait Hillary Clinton, qui est une bourgeoise multimillionnaire, qui était complètement déconnectée du monde ordinaire. Trump leur parlait, sauf que malheureusement, le Trumpisme est intéressant, il y avait le mauvais véhicule. Il y avait Donald Trump qui est complètement capoté. Mais
c'était une mauvaise solution à un problème qui est réel.
Oui, c'est ça. Trump posait les bonnes questions, mais apportait peut-être des mauvaises
réponses.
Un peu ce qu'on peut dire avec Marine Le Pen. Hein. Elle pose des bonnes questions, elle arrive avec des mauvaises réponses.
Mais de toute façon, ça, ne serait-ce qu'au-delà de la politique et tout ça, mais la façon dont il a géré la pandémie, écoute, on est rendu plus de 250 000 morts. Je veux dire, c'est des morts qui auraient pu être évitées. La façon dont il a géré ça, c'est absolument épouvantable. Alors, tu peux dire, un président qui prend des mauvaises décisions, ça peut avoir des impacts économiques. Mais là, ça a été une question de vie ou de mort pour ses citoyens. Et ça, tu ne pourras jamais le rattraper. Une économie, ça peut se rebâtir. Des vies perdues, tu ne peux pas les retrouver. Alors, Trump est ton zéro de l'année 2020. Ça tombe bien parce qu'il ne sera plus là en 2021. Emmanuel, toi, ton zéro de 2020.
OK, moi, c'est vraiment comme plus petit.
Non, mais c'est intéressant.
Les leaders syndicaux du monde de l'éducation et de la FAE.
Ah, bon, c'est un bon point.
Monsieur Mallette, je suis pas capable.
Puis pas parce que j'en ai contre les syndicats, loin de là, mais ça incarne la raison pour laquelle, je crois, les syndicats n'ont plus le poids dans le discours public qu'ils avaient avant. On est dans une pandémie où je comprends que les relations sont tendues entre le gouvernement et les syndicats. Mais à un moment donné, là, tout le monde a fait son possible. Il n'y avait rien de parfait. On travaille, tous les gens qui nous écoutent travaillent dans une entreprise où, au début, c'était vraiment un peu carré, les règles de sécurité, le Purel, tout le monde a comme... a trouvé des solutions... Les infirmières sont rentrées travailler, les préposés aux bénéficiaires sont rentrés travailler, les médecins sont rentrés travailler, les concierges. Puis la seule chose qui compte dans le discours qu'on entend de ces leaders-là, c'est de rouspéter, de gueuler, de critiquer, comme s'ils avaient perdu de vue le sens de la responsabilité qu'ils ont. Je veux dire, les infirmières, ils font des manifestations parce qu'ils sont épuisés, les préposés aux bénéficiaires, mais ils remettent pas en question le travail qu'ils font. Moi, il n'y a pas un plus beau métier sur Terre que d'enseigner. Il n'y a pas une plus grande responsabilité sociale.
Tu sentais pas cette passion-là pour le métier chez
les syndicats. Et on ne le sent pas chez eux. Et je trouve ça tellement malheureux. Et puis, c'est pas parfait, là. Je prétends pas que l'Ontario est une province parfaite, mais c'est quand même remarquable. Moi, je vois la différence. Quand le confinement a commencé, bon, tous les enfants à la maison, whatever, à un moment donné, quand ils se sont rendus compte que ça serait plus long, en Ontario, les profs, ils sont démerdés.
Ben oui.
Les écoles nous ont appelés. Avez-vous un ordinateur? Oui. Ceux qui en ont pas, ils ont mis des bornes pour les familles à faible revenu, pour que les enfants puissent aller télécharger. Ils sont organisés pour taponner des systèmes, trouver des... Finalement, c'était pas la super éducation, mais les enfants, il y avait une petite liste de devoirs à faire à toutes les semaines. Ben, ils voyaient leur
peu le réflexe anglo-saxon du community effort, là, tu sais, là,
je sais pas,
on voit les levées de fonds, tout ça, là, il y a comme quelque chose.
Les relations syndicales en Ontario entre le gouvernement Ford déteste le lobby des métiers. C'est pas comme si c'était le beau jeu, là, puis que ça allait bien, là. C'est aussi tendu, c'est aussi difficile. Mais on n'a pas entendu cette espèce de je me moi. Puis ça m'a... Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment triste.
Mais les enseignants, les enseignantes, quand même, contestent un peu la suprématie de M. Mallette. Je veux dire, parce que quand on compare...
Il y en a. Pas de,
c'est quand la dernière fois qu'on a eu un gouvernement au Québec qui a dit que l'éducation était une priorité.
C'est vrai.
Là, je dis pas que le plan de M. Legault, c'est le bon, là. Mais juste de dire, avez-vous, là, faut faire mieux. Pourquoi... Pour le bien de nos enfants, ces gens-là sont pas capables, de part et d'autre, de trouver une façon de nouer un dialogue. Je trouve ça malheureux. Ça me déprime.
Alors ton zéro.
Non, vas-y, toi d'abord.
Non, toi.
Non, non, c'est parce que là, tout à l'heure, je me suis fait dire que je brimais ta liberté d'expression.
Non, non, vas-y, là, toi, parce que moi, je suis pas sûr encore. Vas-y.
Oh, mais oh, ben là, tu penses que tu vas le changer.
La pensée est en mouvement.
Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de le changer. Ben moi, mes gros zéros, parce que c'est un zéro collectif, c'est les covidios, les complotistes, les anti-masques qui ont fait passer leur intérêt individuel, leur j'ai le droit, leur liberté avant le bien collectif. Puis tu sais, en temps normal, quelqu'un qui dit « je pense juste à mon nombril puis je m'intéresse pas à la collectivité puis je m'en tape des conséquences de mes gestes », ça peut avoir des conséquences, mais minimes. Mais en période de pandémie, quelqu'un qui dit « moi, je m'en fous de porter le masque, moi, je vais aller à la place Rosemère danser, moi, je vais aller faire du karaoké puis je vais postillonner sur tout le monde », ben c'est une question de vie ou de mort puis c'est plus drôle. Oh, bien et bien. Moi, les covidios, là, je les ai en travers de la gorge et ça a été vraiment pour moi les pires crétins qui se sont exprimés sur toutes sortes de... Non, mais vraiment des cabochons. Des cabochons et le cabochon en chef, Alexis Cossette-Trudel. Je veux dire, l'élection aux États-Unis, la raison pour laquelle il y a eu une flambée de cas de COVID en Europe, c'est comme par hasard arrivé à la fin du mois d'octobre. Justement pour faire peur aux gens parce que l'élection aux États-Unis s'en venait, tu t'arraches les cheveux en disant mais à quoi ils pensent ces gens-là? Mais vraiment les covidios là qui ont décidé que ils allaient cracher à la face de tout le monde puis qu'on s'en fout d'attraper la COVID. Encore aujourd'hui, je lisais quelqu'un sur les médias sociaux qui disait moi il y a personne dans mon entourage que je connais qui a la COVID donc la COVID n'existe pas.
Mais voyons.
Hey,
mais
c'est quoi? Oui oui. Ben, t'as 5 ans. Raisonnement de bâtiment. Tu te mets les yeux devant les dans de, la main
Jeff
devant Fillion, les yeux.
Jeff Fillion a écrit sur Twitter tu fermes la télévision la COVID n'existe plus.
Ben oui, c'est une création des médias.
Comme si c'était une création des médias, ça n'existait pas dans la vie.
Mais parlant d'animateur radio, moi, je t'écoutais, Sophie, puis je te jure que je suis sincère, je me suis dit, ben moi, je vais remercier Éric Duhaime d'endiguer le mal, de leur donner un véhicule d'expression, de devoir, il va dealer avec ces gens-là, de toute évidence, il va devoir les discipliner pour dire, arrêtez-moi ça, c'est délire-là.
Au Parti conservateur, ouais.
Du Québec, oui, c'est-à-dire que son choix... Évidemment, son caclon de base pour aller chercher des membres,
piège,
ça va être ça.
Mais quel piège! Éric avait un trou gros comme un piège à housse devant lui, puis il est tombé dedans. C'est-à-dire qu'il a commencé sa campagne en gueulant contre la dictature sanitaire. Là, il va se ramasser avec tous les coups.
Ben oui.
Et non, mais là, il va être pogné comme Maxime Bernier.
Oui.
Qui s'est peinturé dans le coin avec tout un assis de gang de bozos. Alors que ce que Éric aurait dû dire, c'est que regardez, c'est la preuve qu'on a besoin du privé en santé. Le système de santé est débordé, blablabla, puis arriver avec des arguments...
C'est pour ça que moi, je le remercie.
Arriver avec des arguments logiques...
De libertariens.
Parce qu'il y a des questions légitimes à se poser sur la gestion de la crise.
Mais
sauf qu'il a dit, il a parlé de dictature sanitaire, et là, il va se retrouver avec plein de gens que tu ne veux pas avoir comme amis.
Mais pour engager Lucie Laurier comme ministre de la santé...
Puis... comme une forme de détresse derrière ça, non?
Ah ben oui, mais...
Moi, c'est gentil, médication, comme Mathieu Bock. Mathieu Bock a écrit ça, c'est des gens qui sont en détresse. Non, c'est des idiots! C'est des
pourtant,
imbéciles!
Regarde, Sophie parlait de Alexis Cossette-Trudel, de toute évidence, il a toute sa tête. Quand même, en termes, il est érudit.
Oui, il y a des diplômes universitaires, là.
Pas des débiles légers.
Des gens qui croient toutes sortes de complots et tout.
Ben, je veux dire, ils ont... Je pense pas qu'on peut dire... C'est pas un manque d'intelligence, là.
Ben, Christy, ils ont vu un reportage de gens qui sont...
Non, mais attends, ils évoluent dans une réalité. C'est
une réalité parallèle.
C'est le même
ça.
Problème que Trump. où 56% des gens qui ont voté pour lui pensent qu'il a gagné. Ces gens-là évoluent dans une réalité parallèle.
Oui, mais c'est grave. Ça, on est dans un film de science-fiction, là. Y a-t-il quelque chose dans l'eau?
Non, il n'y a pas quelque chose dans l'eau.
Mais les comédios, là, qui disent moi, je crois pas à la COVID parce que je connais personne qui l'a eu. Fait que là, tu leur dis, ben. Les publicités là, du gouvernement où ils ont donné la parole à des vrais individus, des gens, là, des hommes, des femmes qui ont eu la COVID, qui ont des séquelles, ça va rester pour le restant de leur jour. Francis Brizard, là, le premier qu'on a vu à la télévision, qui
avec
a courageusement accepté, oui, avec la trachéotomie, qui a accepté. Mais comment ils ont réagi, les complotistes, les covidios, en disant, ben non, c'est un comédien. C'est pas un comédien, c'est quelqu'un qui l'a vraiment eu. Après ça, ils ont dit, ouais, mais là, c'est organisé avec le gars des vues parce que finalement, il n'y a pas vraiment eu une trachéotomie. Hey, je lui parle régulièrement, oui, Francis mais... Brizard, il a été harcelé, il a été intimidé par les COVIDios.
Oui, mais c'est comme Alex Jones aux États-Unis qui a fait croire à ses auditeurs que les parents de Sandy, que Sandy Hook, Hook, la tuerie là, où les petits-enfants oui, dans oui. une garderie, mm-hmm. que tout ça, c'est un coup monté, puis que les parents, c'est des acteurs. Là. Pour la cohésion de nos sociétés, il va falloir trouver une solution à ce problème-là. Parce que c'est un gouffre qui ne fait que s'accentuer et dont on voit les ravages. Avant, c'était des coucous, tu sais. Mm-hmm. Mais on voit l'effet que ça a sur une société. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Mm-hmm. On voit ici au Québec la danse de Saint-Guy à Rosemère, les manifs anti-masques. Même les gens.
La danse de Saint-Guy, c'est excellent, ça.
Non, mais les gens là, qui menacent d'aller rentrer dans un hôpital, là,
aller
montrer que.
Ça fait peur.
J'ai aucune idée c'est quoi, là. Mais il faut trop apporter. Il faut que les gouvernements, à un moment donné, trouvent une solution à ces problèmes-là.
OK, mon zéro.
Oui, c'est quoi ton zéro? Parce que peut-être tu l'as changé depuis tout à l'heure.
Oh, ben oui, c'est vrai.
Il a la pensée mobile.
Et ça, qui est ton zéro 2020?
OK. Je vais fort un peu. Je vais fort un peu. Zéro
quoi,
est un
jamais.
Mot. Zéro, zéro, jamais.
T'es un homme tellement nuancé.
Zéro est un nom, est un mot fort. OK. Mais vous allez voir.
Ah.
Bon, j'ai un journal à Montréal, jeudi le 5 mars. Jeudi le 5 mars, d'ailleurs, j'en ai un autre.
C'est deux semaines avant la pandémie.
J'en ai un autre ici.
C'est fournisseur de bureau,
mars,
Denis.
10 mars, tu fais le front, Emmanuel.
Ah, mais mon Dieu.
Jeudi le 5 mars.
2020.
Québec demande à ses citoyens de ne pas porter de masque.
5 mars.
Arruda.
Donc, ton zéro, c'est Dr Horacio Arruda.
Il a travaillé très fort. C'est quelqu'un qui a pas compté ses heures. C'est quelqu'un, je pense, qui prenait le Québec à cœur. Je vais loin, mais ce n'était pas l'homme de la situation. Au début, peut-être, parce qu'il était là, c'était le mononcle sympathique pour nous, dire tout est en contrôle et tout, mais à un moment donné, Christy, on a dit non à des gens qui étaient autrement plus qualifiés que ça. Madame...
Joanne Liu.
Joanne Liu.
Bien sûr.
On s'en parlait, je pense, une fois... qui était sur le terrain pendant 30 ans, qui a combattu des pandémies, dont l'Ebola, elle était là, elle est revenue au Québec, elle était prête, elle s'était mise en réserve de la République, comme on peut dire,
ben oui.
Et on a dit non parce qu'elle était ingérable, elle était incontrôlable, puis on a pris M. Arruda, et M.
On dit, certaines personnes disent
une autre
que...
femme de talent forte qui est ingérable ben oui. et incontrôlable.
Ben oui, c'est ça, exactement. C'est exactement. Puis là, M. Arruda, je suis désolé, là, il est en retard sa ventilation, il est en retard ses
ça,
masques.
Ça, c'est vrai. Moi, je le répète comme, à chaque
fois. L'affaire de la ventilation, là, ça n'a aucun sens.
Hein?
Mais non seulement ça, mais le nombre de flip-flops qu'il a fait.
Moi, je trouve que ça ne sert personne qu'il soit sur la même tribune que le gouvernement parce que c'est la prérogative du gouvernement de décider. C'est pas lui qui est responsable, c'est le premier ministre du
Québec. Les autorités de santé publique demandent aux Québécois de cesser de porter des masques.
Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains.
Alors qu'il y a plusieurs années, l'Institut national de santé publique disait que la meilleure chose lorsqu'arrive une pandémie, c'est de porter un masque. Que ce n'était pas une solution miracle. C'était la première chose à faire. Ça, c'était il y a 10 ans, un rapport il y a 10 ans, alors à l'époque du SRAS, c'est tout ça. Alors que l'OMS était là-dessus, tout ça. On était en retard. Je dis, c'est quand même lui qui a dit, faut pas porter de masque. Puis en plus, c'est parce qu'il en manquait, puis il nous le disait pas, là, qu'il en manquait. Ouais. Il nous le disait,
ça,
là.
J'avoue que ça, c'est pas mal, c'est le fil blanc qui dépasse. Mais je suis très d'accord avec toi, Horacio Arruda, à maintes reprises, il aurait dû céder sa place à quelqu'un d'autre. Ne serait-ce que pour mieux communiquer l'autorité du bon docteur ou de la bon docteur qui aurait pu être Joanne Liu. Je suis d'accord avec toi. Ceci dit, sur les masques, moi, je trouve que je te trouve sévère sur cette déclaration-là du 5 mars par rapport aux masques parce que la science, à l'époque, n'avait pas précisé
que c'était... Ben si! Je peux te sortir plein de textes,
mais
c'est ça.
À Taïwan, à Hong Kong, tout le monde porte le masque
là-bas depuis 500 millions d'années.
Mais il y avait quand même...
L'Institut national de santé publique du Québec... disait en cas de pandémie, la première chose qu'il faut faire, c'est porter le masque. Ça, c'est en 2005, je pense, ou 2006, qu'ils ont écrit ça, un rapport.
Oui, mais c'est parce qu'à l'époque, Arruda opposait le port du masque à de meilleures mesures sanitaires comme 2 mètres
non,
de distance.
Non, il nous mentait.
Non, il manque de quoi dans la chronologie.
Il y avait une pénurie de masques, c'est tout.
Ah oui, non, ça, je sais.
C'est la seule affaire. C'est la seule affaire. Ils ont dit, là, ça donne un faux sentiment
de sécurité. Non, mais de toute façon, au-delà de ça.
Moi, là, où j'en ai, puis je pense que face à la fatigue générale du public, c'est qu'on en est encore, malgré les efforts de tous ces hauts fonctionnaires, Madame Tam à Ottawa, Dr. Nou, Arruda, Bonnie Henry en Colombie-Britannique. Ben oui. On a encore l'impression que c'est de l'alchimie, cette affaire-là.
Mais j'ai l'impression que M. Arruda ne lit pas vraiment la littérature scientifique. J'ai l'impression. Écoute, mon feeling, je parlais à Machouf, qui est épidémiologiste, et qui disait aussi... Il n'a pas l'air d'être au fait, vraiment.
Voyons.
Oui.
Oui, je te dis. Écoute,
mais Amir Kadir dit la même chose.
Le masque, ça fait très longtemps que les spécialistes le disent.
Mais la ventilation, Richard, à un moment donné.
En
septembre, je pense que c'est en septembre. J'espère que je me trompe.
Au mois de juillet, je faisais de la peinture chez nous, au mois de juillet, et il y avait une ligne ouverte sur les nouvelles conclusions.
Concernant la ventilation.
En juillet, il y avait 230 scientifiques qui avaient publié une lettre ouverte disant que le nerf de la guerre dans les milieux fermés, dont les écoles, c'était la ventilation.
Mais au mois d'août au Québec, au mois d'août ou au mois de septembre, Amir Kadir et tout un groupe de médecins, de scientifiques, ont dit l'importance de la ventilation. Alors, comment ça se fait que des semaines et des semaines plus tard, le docteur Arruda n'est pas encore là. Et l'autre problème avec docteur Arruda, je m'excuse,
c'est maudit. Il était en vacances la semaine avant. Là.
Non, mais quand il est parti en vacances au Maroc, il était là pour un congrès, mais il est resté pour passer des vacances.
On
alors
parle
que
de février-mars.
Il n'y en a aucun, au bout d'un an, là, il n'y en a aucun
qui a un dossier parfait.
Puis ça illustre à quel point personne ne s'est jamais intéressé à ces enjeux de pandémie.
Absolument.
On pensait que ça ne nous arriverait pas. Puis tout le monde s'est fait prendre les culottes à terre. Et là, tout le monde rame.
Mais il n'y en a pas moins que moi, si j'étais le gouvernement, je suis surpris qu'on se soit privé de meilleurs agents de communication de santé publique.
Moi, je n'en reviens pas qu'on a dit non à Mme Joanne Liu.
Ah, ça, c'est clair.
C'est une sommité internationale. Ouais. N'importe quel pays aurait adoré l'avoir dans son équipe. On a dit non, on jette nos choux gras.
Oui.
Et comme tu dis, hein, une autre femme supposément ingérable.
Oui.
Là, tu dis pourquoi le gouvernement voulait avoir quelqu'un qui était comme un peu une marionnette qui le faisait parler. Et un problème que j'ai avec M. Arruda, c'est que Dr. Arruda, il fait partie de l'appareil gouvernemental, c'est un sous-ministre. Hein, il est en train de sous-ministre. Donc, moi, je trouve que le directeur de la santé publique devrait faire peut-être des points de presse, peut-être... À part que le premier ministre, je ne sais pas, peut-être trop tatillon, quoi.
Mais moi, je comprends que M. Legault, au début, a voulu s'appuyer sur la santé publique pour dire, voici, j'ai des mauvaises nouvelles, voici ce qu'on doit faire. Le docteur est là, il
veut
nous dire.
Non, mais c'était très utile au début de la pandémie, mais je pense que pour la deuxième vague, dans un contexte d'un électorat qui en a ras-le-pompon, de gens qui sont plus informés, plus sceptiques, il aurait fallu comme profiter de l'été pour avoir une approche beaucoup plus axée sur les données. Toutes les salles de presse au Canada sont capables de générer des graphiques 3D, de je ne sais pas quoi, de toutes les tendances. Pourquoi nous, on n'a pas ça facilement accessible?
Les écoles.
Pourquoi c'est pas de ça qu'ils nous parlent?
Emmanuel, tu as raison. Parce qu'au début de la pandémie, là, la première vague, on était comme... Mais on est tous devenus des experts en courbe, hein, puis en graphique. Mais on a tous suivi ça.
Aplatir la courbe.
J'ai 25 favoris dans ma liste COVID sur mon navigateur.
Le monon gentil puis sympathique à la deuxième vague, là, non. Donne-moi les chiffres, montre-moi les graphiques.
Non, mais écoute.
Et y a plein de ratés comme ça. Là, à un moment donné, on va faire le bilan une fois que ça, ce sera fini.
Alors, je trouve ça très intéressant que ton zéro, tu l'aies changé parce que ce qu'on avait écrit ici comme zéro... Tu as mis Dr. Arruda, mais à l'origine, c'était l'Université d'Ottawa.
Le recteur de l'Université d'Ottawa, j'avais mis...
Oui, parce que ça a été quand même... Bon, c'est sûr que c'est pas une question de vie ou de mort, mais toute cette question-là, je pensais pas, en 2020,
voir le jour où un professeur serait suspendu par les autorités universitaires pour avoir prononcé un mot considéré imprononçable, mais pour l'avoir prononcé dans un contexte académique pour expliquer une situation à ses élèves.
Alors, moi, ça ne me surprend pas.
Ah, ça ne te surprend pas.
Canada anglais, il y a 3 ans.
Ah, explique.
Une professeure à l'Université de Waterloo a été suspendue pour avoir montré dans un cours une vidéo d'un prof de l'université qui s'appelle Jordan Peterson, tu sais, oui, dont vous avez entendu parler, qui est prof de psycho, assez à droite aussi.
Mais brillant.
Qui contestait la loi sur
l'identification des personnes non-binaires.
L'identité de genre et la façon dont c'était rédigé dans le code d'éthique des avocats du barreau de l'Ontario. Tu sais, c'est une affaire, là, comme, tu peux pas être plus pointu que ça, là.
Ouais, t'as la vie.
Et donc, il avait été contesté, elle a montré un de ses vidéos dans un de ses cours et elle a été suspendue. Alors, je peux pas te surprendre que c'est 2 ans après.
Ouais. Ben, tu pourrais dire qu'elle a fait de la provocation comme Samuel Paty.
Mais.
Ah, non, Samuel! C'est des adultes universitaires. Ce ne sont pas des enfants de 13 ans.
Pour revenir à 2020, il y a une chose, et là, je pense que ça va te faire plaisir parce qu'on se parle régulièrement à l'émission, puis tu reviens souvent avec ça. Je pense 2020, tu sais c'est quoi la MSG dans les restaurants chinois?
Oui, le monoglutamate,
le monoglutamate de sodium.
Ça accentue les saveurs. Et ça accentue les saveurs. Donc, 2020 a accentué les problèmes qu'on avait au Québec, qui sont rendus, par exemple, que les CHSLD étaient le maillon faible du système de santé, on le savait depuis longtemps, mais ça l'a accentué. Les inégalités sociales, t'en parles souvent, la pauvreté, ça l'a comme accentué.
Les écoles tombaient en ruine.
Que les écoles n'allaient pas bien, puis qu'il n'y avait pas les bons systèmes de ventilation. C'est des problèmes qu'on avait déjà, mais avec la pandémie, ça a comme mis du MSG là-dessus.
Une belle image, mon mari. C'est pour ça que je t'ai épousé il y a 18 ans.
C'est très culinaire. Pourtant, à ce qu'on sache, il ne cuisine pas beaucoup.
Non, mais même s'il cuisinait, il ne mettrait pas du MSG.
Ah, c'est vrai.
Mais
c'est vrai.
Quand il appelle pour se faire livrer, des fois, il y a du MSG.
Mettez-moi du MSG, je veux que ça goûte plus.
Mais on connaissait ces problèmes-là, comme la DPJ aussi, qu'il y a eu des problèmes à Granby et tout ça, mais c'est des problèmes qu'on connaissait un peu de la DPJ qui avait été avalée par un énorme système.
On ne peut pas soustraire 1300 cadres d'un système.
Oui, mais on veut tout l'État. On veut qu'il s'occupe de nos enfants.
Au Québec.
On veut qu'il soigne nos aînés.
Le gouverneur maman.
Ben, c'est normal. C'est une république, nous, on n'est pas des Canadiens.
Il faut s'occuper des enfants défavorisés. Ça prend la DPJ. Ça prend un bon système d'éducation parce qu'il faut que nos enfants aient des jobs et qu'ils deviennent riches. Ça prend un bon système de santé parce que si on est malade, on veut se faire opérer. Ça prend des bons CHSLD parce qu'on veut pas s'occuper de nos parents, fait qu'on va les parker là-bas. Puis après ça, ça prend. Mais aussi, il faut baisser les impôts. Puis je dis.
Mais c'est on veut le notre beurre, statut. On est des Nord-Américains, mais des Républicains français qui vivent en terre d'Amérique. C'est ça qui fait notre différence.
T'as tellement raison.
Actuellement, peut-être que là, on souffre de cette comparaison-là, de cette situation-là. Peut-être que dans une autre phase de l'histoire, on va en tirer notre épingle. On va tirer notre épingle du jeu. On a un statut différent. On a une pensée républicaine au Québec. Tu sais, souvent, à Ottawa, je me suis bataillé là-dessus pendant des années, puis tu étais là, puis tu l'as vu.
Ouais, mais non, tu étais tout doux.
Oui. Oh. Non, mais c'est que, actuellement, on dirait que t'as pas le choix. Si tu défends la distinction du Québec, ben, faut absolument que tu sois au bloc. Non, c'est la nature des Québécois. On est différents. C'est pas une question de séparatisme. C'est une question de reconnaître notre différence. Elle peut s'articuler avec une frontière puis un péage à 417. Oui. C'est pas un défaut ni une qualité. C'est une caractéristique.
On n'est pas mieux, on n'est pas moins bien. On est juste nous, puis c'est correct de le reconnaître.
Un des événements aussi qui a marqué 2020, c'est toutes les accusations de racisme envers le Québec. C'était exacerbé, là. Vraiment, moi, ça fait longtemps.
Plus qu'avant?
Ah oui, moi, j'ai trouvé, là, c'est vraiment, là, c'était, on était raciste, on était fermé, on était intolérant à cause de la loi.
Si 20, tu ne dis pas 21. Que le racisme est systémique, t'es raciste, je veux dire, ça arrête plus, là, depuis quelques mois, ce n'est que ça.
Il y a une chose qui a été perdu, moi, je pense, dans ce débat-là, malheureusement, c'est que racisme systémique et discrimination systémique, c'est pas la même chose. Mm.
puis ils sont mélangés dans le débat public, puis ça n'aide pas à éclairer le débat, je trouve.
Et quel est le mot exact utilisé dans le rapport de la communauté, le rapport vient sur les communautés?
C'est racisme. Racisme qui concerne les autochtones.
C'est racisme institutionnalisé.
Oui.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Une nuance vraiment intéressante ici.
Oui. Toute une question.
On est dans
de
la finesse des mots qu'on accole à un
concept. C'est quand même, moi, je trouve que c'est une des choses vraiment importantes qui s'est passée en 2020.
C'est Joyce Echaquan.
Il y a eu un.
Il y a un avant
un réveil au Québec sur le fait qu'il fallait se préoccuper de la question autochtone, pas parce que c'était gênant de pas s'en occuper. Tu sais, c'est comme, OK, il faut s'occuper des autochtones. Ah, faut la réconciliation. Ils sont allés dans les pensionnats. Mais il y a comme le décès de cette femme-là a fait comprendre, je pense, à une grande partie de la population la profondeur de l'injustice que ces gens-là y vivent. Ça, j'espère que ça ne sera pas perdu.
C'était comme le vidéo de Rodney King, qui est la première fois où les Américains voyaient
la violence.
Les Noirs aux États-Unis savaient, mais que c'est la première fois que les Américains blancs voyaient ce que c'était vraiment que se faire tabasser par la police. Là. Puis je pense que c'est la même chose. Il y a comme un wake-up call. Là,
ça a été l'année de Joyce Echaquan au Québec et l'année de George Floyd aux États-Unis. Donc, tu parles de Rodney King, mais ça, c'était il y a plusieurs années. Cet été, c'était vraiment l'affaire George Floyd qui a vraiment aussi réveillé du monde.
Oui, mais là, tu as toute une gang de militants antiracistes qui, à les entendre, nous autres, on est comme dans le Mississippi, puis George Floyd, ça nous regarde. Oui. Non, nos policiers sont pas comme les policiers américains. Je suis désolé, là. T'es-tu déjà fait arrêter aux États-Unis par avec cette vitesse de peur en tabarnouche des polices?
Peu importe ta couleur.
Ils mesurent 10 Il mesure 10 pieds puis il pèse 600 livres, là. Ouais. C'est vraiment, là, attends une minute, là. Perfect. C'est pas nos policiers à 4 pieds 2 mouillés, là. Et un des derniers événements de l'année 2020 qui était marquant au début décembre, c'est la croustade aux pommes. Justement.
Ah non, elle est hallucinante.
Ça, c'est un événement marquant, ça.
C'est ce que j'espérais, d'ailleurs.
Alors, il y en a deux on reçoit la visite de quelqu'un d'extrêmement important. Attends une seconde, Mathieu, parce qu'il faut que je te présente. La raison pour laquelle on est réunis ce soir et la personne qui a eu l'idée de ce balado, c'est notre patron, notre ami, notre collègue, Mathieu Turbide.
Ah bon?
C'est grâce à toi, Mathieu, que des QVS existent, que Devine Souper existe.
Ouais.
Et Mathieu aussi, le gars derrière Cube Radio. Et c'est vraiment une belle aventure professionnelle, vraiment. Quand vous nous parliez de ça au tout début, toi puis d'autres personnes, j'étais très sceptique, mais finalement, ça marche, puis on a bien du fun.
Ben oui, mais dans le fond, tu sais, l'idée là-dedans, c'est que aujourd'hui, les informations, les opinions, les contenus, tout transite par le numérique. Donc, on dit Cube Radio, c'est un clin d'œil parce qu'on n'est pas sur la radio. C'est pas une vraie radio, dans le fond. Ce qu'on fait, c'est du contenu audio. On fait des podcasts, on fait des balados, on fait des émissions sur le numérique. Et le contenu finit toujours par trouver son public. C'est ça qui est bien, parce que le podcast que vous faites, on voit semaine après semaine, il est de plus en plus écouté. Les gens apprennent à découvrir des contenus audio d'une autre façon que la simple radio traditionnelle qu'on ouvrait dans le salon ou qu'on ouvre dans la voiture. Donc, on est très, très content de cette aventure-là de Cube Radio. On a maintenant aussi une petite sœur avec Cube Musique où on a un service de musique en continu qui met de l'avant la musique du Québec, mais pas que. Donc, on a toute la musique. Et c'est ça, l'idée, c'est qu'on veut être un espèce de rempart face à d'autres géants qui sont là dans la distribution.
Cube, on veut se battre contre les grands géants de l'informatique. C'est pour ça qu'il y a eu Cube Musique. Mais bon, je vais le dire parce qu'ils sont trop humbles. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Cube Porn s'en vient. Cube Porn avec du talent québécois, des fesses.
Plus du monde connu, québécois. Mais là, Charles Martineau,
des bonnes fesses de chez nous. Cube Porn. On est très contents avec ça.
Ça marche même pas, ta blague, elle marche même pas parce que déjà, Pornhub a été créé à Montréal.
Ben oui.
C'est déjà très montréalais.
D'ailleurs,
Montréalais.
Pornhub, t'as juste changé une lettre, tu enlèves le H, tu mets un Q à la place, ça donne Porn Cube.
Alors là, je vais vous poursuivre en diffamation, vous deux.
Alors, Cube Porn, vous allez peut-être être amené à un moment donné à collaborer, à participer.
C'est ce qu'on se souhaite
c'est
pour
ça,
2021.
Bon, d'accord.
Porn Cub, ben oui.
Pour 2021, chacun.
Cube Porn. Mais toi, que je te vois pas aller là-dessus, mon amour. T'es censé avoir tout ce qu'il faut à la maison.
Ça va être ma playlist. Merci.
Ta croussade aux pommes est bonne en tabarnak. Ben, je t'en apporterai une autre à l'automne prochain.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.